Chapitre 2. Le travail de suite, clé du succès. Quel pasteur ou quel chrétien n'a pas un jour rêvé de voir des nouveaux convertis manifester les qualités suivantes? Généreux et désintéressé, assidu dans la prière et à l'écoute de la parole, apprécié par tout le monde, chrétien et non chrétien, joyeux et simple, zélé et spirituellement fécond. C'est bel et bien la description que nous trouvons d'eux dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47. Mais comment les premiers chrétiens obtenaient-ils de tels résultats dans l'évangélisation? Quel était donc le programme de formation offert à leurs nouveaux convertis? Nous le lisons dans le passage précédent. Ils eurent le cœur vivement touché, foi dans la parole annoncée. Ils se repentirent, ils furent baptisés, ils reçurent le don du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières. Actes chapitre 2, versets 37 à 42. De nombreuses dénominations et églises locales s'efforcent de vivre chacun des points de cette liste. Elle est dans toutes nos Bibles depuis 2000 ans. Mais il manque aujourd'hui un trait d'union entre la deuxième et la troisième affirmation biblique. Les gens qui sont touchés et se repentent, au travers de nos diverses activités d'évangélisation, s'égarent en grand nombre entre le moment de cette décision et celui où ils devraient être ajoutés à la communauté locale. Certains croyants, face à cette réalité, refusent purement et simplement d'entrer en matière. Ils prétendent que ce n'est pas de leur ressort. Seules les personnes mal nées retombent, disent-ils. D'autres esquivent la question en citant un exemple paravent, authentique, certes, mais non représentatif, d'un de leurs convertis qui, sans aide particulière, est devenu membre d'une église située aux antipodes. Un exemple paravent est donc un fait réel, mais exceptionnel, qui dénature le fond du problème et jette un voile sur sa solution. D'autres, finalement, quelque peu imbus d'eux-mêmes, n'étudient jamais honnêtement le sujet et évitent ainsi de se remettre en question dans leur propre ministère ou mouvement. Malheureusement, trop d'évangélistes et d'organisations missionnaires, par crainte des hommes ou pour produire des rapports optimistes à l'excès, esquivent consciemment ou non toute étude sérieuse de leurs fruits à long terme. Mais il existe nombre de chrétiens qui, après s'être engagés à fond dans de multiples formes d'évangélisation, s'interrogent sincèrement et s'affligent de moissons partiellement perdues. Si vous lisez ces lignes, je crois que vous accepterez avec moi de vous remettre en question pour marcher dans la direction d'un fruit meilleur et durable. Puisse se lever une nouvelle génération amoureuse d'efficacité dans la vigne de Dieu. Ce chapitre ne sera pas consacré à la doctrine. Des dizaines de bons ouvrages traitent déjà du sujet, mais à la pratique difficile du travail de suite qui a souvent lieu aujourd'hui dans un contexte interdénominationnel. La plupart des principes qui seront présentés ici sont cependant également utiles pour entourer la conversion d'un ami en dehors de tout effort d'évangélisation particulier. Planifier la catastrophe, c'est possible. Que serait-il advenu de vous si, à votre naissance, le médecin, les infirmières et vos propres parents, ayant jugé votre santé acceptable, vous avez déposé sur une étagère pour reprendre de vos nouvelles 2 semaines plus tard? Vous seriez mort. On peut même ajouter que cette procédure garantit un échec total, c'est-à-dire sans décès pour 100 naissances. Serait-ce la faute de Dieu? Non, bien sûr, car il vous avait magnifiquement préparé à venir au monde pendant des mois, ajoutant une cellule à l'autre, créant harmonieusement membres et organes, insufflant vie et caractère à cet être unique. Serait-ce donc de votre faute? Non. Car le bébé le plus avancé, le plus robuste et le plus intelligent ne peut survivre en ce monde sans une aide extérieure. Serait-ce alors la faute de ceux qui vous ont mis au monde? Oui, malheureusement. Et quel drame de penser que ceux qui vous ont désiré, qui ont prié avec ferveur pour que vous naissiez en bonne santé, soient maintenant responsables de votre mort. Il en est de même sur le plan de la naissance spirituelle. Si tant de nouveau-nés se perdent, ce n'est ni la faute de ceux-ci, bien qu'ils portent aussi une part de responsabilité, ni celle de Dieu, mais celle de trop de parents qui abandonnent leur bébé spirituel sur une étagère pour X raisons, s'attendant à ce qu'il se débrouille tout seul. Que dire? Un nouveau-né, c'est magnifique, mais exigeant. 10 personnes sur le banc des pénitents. C'est aussi merveilleux que 10 bébés qui gazouillent à la maternité. Ce n'est pas là que le travail finit, mais c'est là qu'il se poursuit. C'est là aussi que commence, pour les parents, un temps de contrainte. Ces bébés ne comprennent pas qu'ils doivent chanter le lundi soir de 5 à 6 heures et pleurer le jeudi de 9 heures à 10 heures après le message. Non, ils ont leur propre programme. Ils ont tout le temps faim, sont fragiles, font au lit ou sur vos mains et sont encore passablement égoïstes. Si, à ce moment précis, les parents n'ont plus de force, plus de temps, plus d'argent, on peut se demander si réellement ils voulaient un bébé, ou s'ils ont un jour entendu parler de mots tels que budget, préparation, ou plus simplement berceau. Mon Église, j'en fais donc partie, s'est-elle préparée à entourer, nourrir, longer, soigner, écouter, instruire ces nouveau-nés? A-t-elle quelque force restante, quelque argent, quelque temps et souplesse d'adaptation? A-t-elle réfléchi pratiquement à cet accueil? A-t-elle un plan? Des parents disponibles? Si donc, suite au dernier appel dans un effort d'évangélisation, les fidèles regardent leur montre, bâillent et se dirigent vers la sortie en se félicitant de la bonne campagne qui est maintenant terminée, que les conseillers, quand ils existent, après 10 minutes d'entretien, tapent sur l'épaule des repentants et leur souhaitent bonne chance, pour ne pas dire bonne année, ou rendez-vous au ciel. Nous aurons les conséquences d'un travail de suite inexistant, médiocre ou bâclé. Quelles sont-elles? A. Le fruit est très faible par rapport à l'effort fourni. B. De ce fait, le découragement et l'incrédulité font des adeptes en rapport aux futures campagnes. C. L'évangélisation devient progressivement le parent pauvre de l'Église. D. De fausses conclusions sont tirées, ce qui équivaut à amputer le bras de quelqu'un qui souffrirait de la jambe. Dans cette catégorie, voici quelques exemples très en vogue dans les comités d'évangélisation et autres conseils d'anciens. Ce n'est plus ou ce n'est pas le moment d'évangéliser. L'époque des grandes campagnes d'évangélisation est révolue. L'Église va mal, elle n'est pas prête. Notre effort ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Et toutes les raisons que les mécontents avanceront pour prêcher leur doctrine fétiche. Ces raisonnements, souvent acceptés et même admirés, orientent des communautés, des villes et des régions entières dans la mauvaise direction pendant des années. Disons-le clairement, même si toutes les conditions précitées étaient réunies, à savoir le temps idéal pour évangéliser est reconnu à l'unanimité par le comité, ainsi que l'utilité d'une grande campagne, l'Église est en pleine forme, Dieu révèle son approbation au projet si clairement que les ânes se mettent à parler et les grands poissons amènent des évangélistes sur les rivages. De plus, pour plaire au frère X, l'orientation des chaises a été changée et pour honorer la pensée du frère Y, on ne fait plus les annonces au micro mais par circulaire. Oui, si toutes ces conditions étaient réunies, mais que, selon une tradition aussi ancrée que mortelle, les nouveaux convertis étaient abandonnés à leur sort, le fruit serait bel et bien perdu, une fois de plus. Les obstacles communs qui sapent à la base le travail de suite. 1. L'ignorance. Certains chrétiens, ils sont légions, n'ont, en toute bonne foi, jamais reçu d'enseignement sur la conduite à tenir quand quelqu'un se convertit. Ils ont peut-être assisté à des centaines d'études bibliques, de réunions de prière et de réunions de sanctification, mais malheureusement, ces excellentes activités ont été perçues non comme un moyen de mieux servir Dieu, mais comme un but en soi. Je fais la volonté de Dieu, non pas parce que j'ai compris comment la faire, mais parce que je vais à 3 réunions par semaine. Ces personnes voient parfois des conversions, que ce soit en vacances, l'adolescente du parasol voisin, ou même dans un camp d'évangélisation. Elles s'en réjouissent et en témoignent dans leur église, qui est fière d'avoir des membres si engagés. Mais si on leur demande ce qu'il est advenu de ces nouveau-nés, on s'aperçoit qu'elles ignorent jusqu'à leur adresse. Elles ignorent surtout que, quelque part, un bébé meurt d'abandon. 2. La paresse. D'autres chrétiens savent bien qu'il faudrait accompagner ceux qui se convertissent, mais... Appelons l'un d'eux négligent. Celui-ci aime bien l'évangéliser. Il prie pour que les gens se convertissent, car il est conseillé. Mais suivre ce gars qui a pleuré sur ses péchés l'autre soir lui prendrait du temps, et surtout lui demanderait un effort de volonté pour rechercher des numéros de téléphone ou des adresses, organiser une rencontre ou encore écrire une lettre. Vraiment, tout cela le fait bâiller d'ennui. Alors il trouve de bonnes excuses pour ne rien faire. Il fait déjà tout ce qu'il peut dans son temps disponible. Il est conseiller et non pasteur. Que pourrait-il bien dire à ce gars? Dieu l'a appelé à gagner des âmes. Pour le reste, les autres doivent s'en charger. Si les choses tournaient mal, ce gars pourrait devenir un boulet pour lui, voire une sangsue. Sa conscience, va-t-on savoir pourquoi, est la seule qui ne plie pas le genou devant ses raisonnements savants. Mais négligeons à une stratégie. Véritable bouclier atomique pour la faire taire. Il prie. Sa prière, malgré tout, est rendue difficile par ce qu'on appelle un dialogue de sourds, car négligent demande à Dieu de faire ce que Dieu demande à négligent. Visiter, entourer, fortifier, bénir, encourager, aimer. En écoutant sa prière, on pourrait croire que négligent est un expert. Dieu n'en est pourtant pas impressionné, mais attristé. Certains chrétiens en restent à ce stade jusqu'à la prochaine conversion. Mais négligent, après 3 semaines, n'y tient plus. Il sort une vieille carte postale de son bureau et écrit quelques mots sympathiques à la personne en question. Celle-ci ne répondra jamais. Il paraît qu'elle a déménagé. Mais négligent, lui, a fait définitivement taire sa conscience. 3. La peur. Arme favorite de notre ennemi, car souvent efficace. Dieu a-t-il réellement dit qu'il est avec ta bouche, qu'il se glorifie dans ta faiblesse, qu'il te fortifie et vient à ton secours? Oui, mais le vieux serpent nous empêche d'entrer en terre promise, en dressant devant nous la peur du rejet, la peur d'être incapable, la peur du ridicule, bref, la peur qui paralyse toute initiative. Le travail de suite est dépeint par le menteur comme étant une science complexe, réservée à une élite dont on est immanquablement exclu. 4. Une théologie fantaisiste. Plutôt que d'établir la liste d'une bonne douzaine d'arguments, liste qui serait par ailleurs incomplète, résumons leurs caractéristiques. A. Nous n'avons pas besoin de suivre les nouveaux convertis, le Saint-Esprit s'en charge. Ah bon? Mais qui est le temple du Saint-Esprit? B. Ceux qui doivent être sauvés le seront avec ou sans travail de suite. Jésus, Pierre et Paul ne le savaient pas. Heureusement pour nous. C. Le travail de suite créerait des conflits entre dénominations. Laissons les nouveaux convertis choisir librement leur famille spirituelle. Un bébé qui choisit sa famille, c'est original. Mais combien en sont vraiment capables? Dans la pratique, cela ne marche pas. Souvent, ce sera la dénomination la plus charnelle, celle qui tire la couverture de son côté, qui récupérera quelques personnes parmi l'hécatombe de bébés morts ou adoptés par les sectes. D. Dieu nous a demandé de moissonner. pas dans le granger. Si les paysans agissaient de cette façon, ce serait la fin de toute civilisation pour cause de famine. Jésus n'a-t-il pas dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Les lignes qui suivent n'ont pas la prétention d'être exhaustives, mais elles sont le fruit de leçons apprises sur le terrain suite à pas mal d'échecs, de recherches, de lacunes, mais aussi de belles victoires. Un fruit qui demeure, c'est possible. Jésus a dit, « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Pendant des années, je me suis demandé comment Jésus pouvait exiger de nous que le fruit demeure. Puis un jour, j'ai compris et accepté que ma responsabilité ne s'arrête pas à l'apparition du fruit, mais à sa sauvegarde. Jésus l'appelle « votre fruit ». Il nous demande de sauvegarder le fruit parce que lui-même l'a fait avant nous. À la fin de son ministère terrestre, Jésus pouvait dire à son Père, en parlant des disciples qu'il lui avait confiés, « Je les ai gardés attachés à ta personne. J'ai veillé sur eux. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. » Évangile de Jean, chapitre 17, verset 12. Je vous propose de considérer maintenant 11 remèdes brûlants d'actualité pour enrayer l'hémorragie quasi traditionnelle qui nous préoccupe. Le monde francophone est composé de plus de 40 pays avec des degrés d'ouverture à l'Évangile très variables. Cependant, les principes restent les mêmes. À chaque lecteur donc d'interpréter les lignes qui suivent selon son contexte. Attention cependant de ne pas se persuader que sa région est la plus difficile et que cela ne marchera jamais chez nous avant d'avoir essayé. Premier remède. Former des conseillers consacrés à la tâche. Pour être choisi comme conseiller, le candidat devrait A. rendre un bon témoignage au sein de sa communauté. Celle-ci doit pouvoir affirmer « Nous désirons que les nouveaux convertis lui ressemblent. » B. Avoir le travail de suite à cœur. Le conseiller devrait comprendre et accepter l'engagement suivant. Je suis personnellement responsable du nouveau converti depuis l'instant de sa décision pour Christ jusqu'à son intégration complète dans l'Église locale. Cette conception élimine d'emblée l'idée du conseiller ponctuel qui disparaît après un entretien initial. Nous verrons dans tout ce chapitre les nombreuses conséquences positives qui en résultent. Elles concernent aussi bien le conseiller en général que celui formé spécialement pour une grande campagne. Ce dernier cas domine ici, mais les principes restent identiques. C. Avoir le sens du contact humain. Si les bons conseillers existent, ce sont généralement des gens fort occupés. Il faudra donc leur offrir une formation à la fois concise et de valeur si nous voulons leur présence. Les lieux de formation influent beaucoup sur le nombre de conseillers recrutés. Dans une grande ville, il est prudent de faire une première rencontre dans plusieurs quartiers et dans plusieurs dénominations. C'est l'instructeur qui se déplace. Une fois la vision et l'intérêt transmis, une seconde rencontre pourra être commune à tous les groupes de conseillers. Les rendez-vous ne devraient pas se multiplier inutilement, mais être obligatoires pour tous les conseillers qui reçoivent une première formation. Si les organisateurs prennent les noms des participants à la première rencontre, ils pourront faire un appel à la seconde et distribuer des badges en conséquence. S'il n'y a aucun contrôle, la formation ne sera pas prise au sérieux. La formation du conseiller doit répondre à deux questions qui comportent deux sujets. 1. Que dois-je faire et comment le faire? Le conseiller est la carte de visite de toute la campagne. Il est vital qu'il saisisse l'attitude qu'on attend de lui. On ne peut cependant pas transformer ce cours en formation de disciples ou en école biblique, ce que trop d'orateurs essayent de faire, perdant de vue le but même de la rencontre. Non, si l'Église locale, en 100 réunions par année, n'a pas enseigné la vie chrétienne, ce n'est plus le moment de le faire. Un instructeur mal préparé aura tendance à prendre un temps démesuré en principe théorique pour voir ensuite tout le monde s'affoler devant l'imminence de l'échéance. Des directives désordonnées et contradictoires fuseront alors en tous sens pour parer au plus pressé. Si nous voulons rester dans nos objectifs, il est indispensable de rester farouchement pratique. Plusieurs points seront repris et expliqués en détail plus loin. Une formation adéquate doit permettre aux conseillers de répondre aux questions suivantes. À quelle heure dois-je me présenter et où dois-je me rendre les jours de campagne? Y aura-t-il une rotation? Équipe pour les jours pair et impair, par exemple? Où dois-je me placer dans l'assistance? Il est sage de demander aux conseillers de se répartir uniformément partout. S'ils sont tous assis au même endroit, telle une armée prête au combat, ils contribueront à augmenter la difficulté de la rencontre berger-brebis au lieu de la facilité. Toutes les personnes timides et impressionnables, pourtant désireuses de s'avancer à l'appel de la conversion, resteront alors sagement cachées dans la foule. Quand dois-je m'avancer exactement? L'évangéliste ne fera pas passer les conseillers pour de nouveaux convertis, mais il indiquera simplement que les deux groupes sont invités à s'avancer ensemble. Quand tous les conseillers, répartis uniformément dans la foule, se lèvent et initient un mouvement naturel vers l'avant, la glace est rompue et le chemin en est par conséquent facilité. Certains appels restent sans réponse, par manque de communication avec les conseillers. Pour ma part, je crois que ce sont les bergers conseillers qui doivent précéder ou accompagner les brebis durant l'appel et non le contraire. Il est difficile à une personne touchée par le message de se lever la première, de déranger cinq paires de genoux, d'enjamber des sacs et objets divers, et de s'avancer en ayant l'impression que tous les regards se fixent sur elle. Où dois-je me rendre avec les nouveaux convertis? Qui organise les groupes pour les entretiens? Que ce soit les conseillers eux-mêmes ou les responsables qui le fassent, la précipitation est à éviter à ce moment précis. L'exigence étant que le conseiller suive la ou les personnes du premier entretien à son ou leur intégration complète dans une église locale. Il faudra prendre un bon départ et pour cela veiller à trois critères immédiats. A. La proximité géographique. Conseillers et nouveaux convertis doivent habiter aussi près que possible les uns des autres. Nous verrons comment y parvenir plus loin. B. La proximité sociale, au point de vue âge, sexe, langue, culture, niveau social. Des exceptions existent, mais un universitaire sera plus à l'aise avec un père, de même pour une femme âgée, un entrepreneur, une adolescente, etc. Pour les enfants qui répondent à l'appel, c'est surtout la disponibilité et la flexibilité des conseillers qui sont importantes. La répartition sera meilleure si les conseillers pour enfants connaissent leur champ idéal de ministère, classe d'âge, arrière-plan religieux et social de l'enfant, etc. C. L'équilibre numérique des groupes. Afin d'éviter qu'un conseiller extraverti ne monopolise l'attention d'un grand nombre pendant que d'autres, plus timides, se retrouvent sans personne à conseiller, à ce titre, une évaluation journalière est nécessaire, en particulier quand les conversions se multiplient. Comment remplir la carte de décision? Celle comprenant trois volets, nouveaux convertis, conseillers, responsables de campagne, permettent un meilleur suivi. Quand et à qui remettre la partie responsable de campagne? Que faire si une personne s'avance pour une autre raison que la conversion? Que faire si je suis dépassé par la situation? Que dois-je donner sur le plan littérature? Quand doit avoir lieu ma première visite? En principe, dans les 48 heures suivant la décision, donc durant la campagne et non après. Serai-je aidé financièrement et comment vais-je recevoir cette aide? Quelle est ma responsabilité envers la personne par rapport à son accompagnement au culte et au respect de ses choix? Certaines personnes seront heureuses d'avoir des amis chrétiens, d'être visitées, de rejoindre un groupe de jeûne ou de prière, mais elles ne sont pas encore prêtes ou n'ont pas l'autorisation familiale ou sociale de franchir la porte d'une église. Trop de conseillers ont une opinion caricaturée du suivi en tout ou rien. Il faut développer chez eux la notion de la sagesse, de la recherche de la meilleure solution compte tenu de chaque situation et d'un service patient mais bien réel. Si la personne est déjà entourée d'amis chrétiens, la tâche du conseiller sera allégée mais non supprimée. Il reste responsable de s'assurer de son intégration dans une église locale, même si, dans ce cas précis, le nouveau converti choisissait de rejoindre l'église de ses amis plutôt que la sienne. D'autres problèmes n'est pas de voir quelqu'un trop entouré, mais pas assez. Dès que la brebis est en pleine sécurité, le conseiller peut se retirer. Il faut enseigner à chaque conseiller une attitude de maturité aussi éloignée que possible de l'esprit de compétition. Quelles sont les éventuelles rencontres auxquelles je devrais assister après la campagne? Est-ce avec ou sans les nouveaux convertis? Ma formation restera-t-elle valable pour d'autres campagnes? Et si la réponse est positive, quel sera le critère de reconnaissance? Liste, badge, lettre de recommandation, etc. Certains conseillers se découragent, car aucun fichier n'est tenu, et à chaque campagne, au lieu d'utiliser le précieux acquis en faisant une distinction entre nouveaux et anciens, on recommence leur formation à zéro. C'est ainsi que plusieurs dénominations et villes perdent leurs meilleurs ouvriers. Si, au contraire, les responsables spirituels dans une ville donnée forment et reconnaissent une équipe interconfessionnelle de conseillers, elle deviendra un puissant instrument de moisson dont chaque campagne, quand bien même l'évangéliste ou le ministère de passage, n'aurait aucun fardeau pour le travail de suite. Les églises locales, elles, seront prêtes. Comment confier un nouveau converti à un autre conseiller en cas de nécessité? Le premier principe est clair, il faut éviter de le faire. Une adoption n'est qu'un second choix. Mais un déplacement géographique du conseiller ou du nouveau converti, une motivation à clarifier dans la relation, une maladie, etc., peuvent y conduire. Si le cas se présente, le premier conseiller ne glissera jamais à la dérobée une carte de décision à un ami. Il prendra soin de présenter face à face le nouveau berger à sa brebis et veillera personnellement à bien déléguer sa responsabilité, c'est-à-dire à ce que l'adoption réussisse. Se fixer, par exemple, un rendez-vous à trois autour d'une pizza pourrait être une manière conviviale et sérieuse de le faire. Comment baigner, par la prière, ce ministère sous tous ses aspects et se mettre à la disposition du Saint-Esprit dans l'intercession pour les nouveau-nés spirituels? 2. Que dois-je dire et comment le dire? Sur ce deuxième point, le conseiller sera enseigné sur les sujets suivants. Établir avec tact un dialogue basé sur la confiance. Le conseiller est serviteur, toute attitude de domination, style interrogatoire policier, doit être bannie. Comprendre par de simples questions le besoin de la personne qui s'est avancée. Réexpliquer brièvement ou éclairer le message entendu. Amener quelqu'un, Bible en main, à comprendre et à accepter le salut. Voir chapitre 1. Présenter la littérature et son but. Présenter les émissions chrétiennes et les sites Internet disponibles. Par gain de temps et pour éviter les erreurs, il est capital que ces indications soient déjà imprimées sur la carte de décision. Cette information est d'autant plus importante pour ceux qui ne peuvent lire la Bible, niveau scolaire insuffisant, et ceux qui risquent la persécution. Les émissions en ondes courtes font le tour de la planète. Renseignez-vous bien à l'avance. Présider aux premières visites avec, par exemple, Une étude biblique simple sur les premiers pas en Christ. Quatre études sont à votre disposition à la fin de cet ouvrage. Deuxième remède. Créer un budget pour le travail de suite. C'est dans notre cœur que les choses doivent changer. Nos priorités sont fausses ou, pour le moins, déséquilibrées. Je m'explique. Dans la plupart des comités d'évangélisation, on passe des heures à choisir un orateur, des dates, un lieu, une publicité adaptée, etc. On planifie un budget en conséquence, prévoyant la préparation et l'événement proprement dit. Les choses sont faites en détail, avec parfois 8 ou 12 commissions et sous-commissions couvrant tous les domaines. Tous, vraiment? Et le travail de suite? Oui, il est très important, me répondra-t-on. Une commission a d'ailleurs étudié la question. Bien. À combien s'élève le budget global? 65 000 francs. Et le budget travail de suite? Le travail de suite sera pris en charge par les conseillers eux-mêmes. Nous ne voulions pas encore alourdir les frais. Résumons la situation classique. Préparation, 33% du budget. Action, 67% du budget. Travail de suite, 0% du budget. Quel rapport y a-t-il entre le budget et notre cœur? Celui-ci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Certes, Jésus a prononcé cette vérité pour souligner que nous devons nous attacher aux vraies valeurs et ne pas nous amasser des trésors corruptibles. Mais il dit aussi que notre trésor, notre investissement, révèle le vrai centre d'intérêt de notre cœur. En d'autres termes, un budget de travail de suite ne comprenant que les zéros démontre que notre cœur n'a pas été gagné à cette cause. Nous ressemblons à un vigneron qui, travaillant d'arrache-pied à sa vigne, aurait finalement obtenu une magnifique récolte, mais serait parti aussitôt en vacances, laissant moisir sur place ses cageots de fruits. Oui, ce vigneron a bien fait de cultiver et de récolter, mais cela n'était qu'un moyen, le but étant de retirer un bénéfice, un salaire. Notre but n'est pas de travailler d'arrache-pied pour remplir un lieu d'évangélisation, écouter un orateur formidable et avoir 10 personnes sur le banc des pénitents. Cela est un moyen. Excellent, mais un moyen seulement. Quel est le but? Il est, bien sûr, que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, et que le plus grand nombre entre dans son royaume éternel. Comment changer notre cœur? L'expérience montre qu'un trésor mieux réparti entre préparation, action directe et travail de suite déplace notre centre d'intérêt dans la bonne direction. Le jour où nous investirons financièrement dans le travail de suite, nous y porterons une attention bien plus grande à tout point de vue. Intercession, délibération, force vive, temps, littérature, etc. La commission du travail de suite cessera d'étudier stérilement un projet utopique, car sans vision, sans force et sans budget. Mais composée des éléments les plus ailés et les plus solides de l'Église, elle travaillera comme si sa propre éternité en dépendait. Ses membres veilleront sur les nouveaux-nés spirituels comme s'ils étaient eux-mêmes à leur place. Investir pour les nouveaux convertis est un acte de foi que peu d'Églises font. N'est-il pas étonnant de constater que tant de dénominations se disputent, marchandent et ferment leurs bourses dès qu'il s'agit de donner pour le travail de suite? Si nous parlions avec folie ou selon la chair, nous dirions qu'un homme gagné à Christ donnera souvent des milliers de fois, au cours de sa vie, la somme que l'Église aura investie pour le sauver. Posez-vous la question. Combien les chrétiens ont-ils dépensé pour m'entourer avant, pendant et peu après ma conversion? Combien ai-je donné financièrement de ma conversion à ce jour? Parlons donc finances. Sur le plan individuel, nous englobons dans ce premier point toutes les formes d'évangélisation. Sur le plan collectif. 1. Finances sur le plan individuel. Pendant mes premières années de vie de disciple, bien que pratiquant la dîme et donnant plus encore, l'idée d'investir pour le salut des autres ne m'avait pas effleuré. Je voulais bien distribuer de la littérature pour autant qu'elle me soit fournie gratuitement. Emmener un ami à une rencontre quelconque si l'entrée était non payante, véhiculer quiconque pour autant qu'il y ait de l'essence dans la voiture qui m'était prêtée, exercer l'hospitalité aux frais de mes parents, sans en être pleinement conscient, etc. Cela est une vue enfantine qui peut, si elle se perpétue, devenir un réel frein à l'avancement du royaume de Dieu. Si, à un moment donné, les disciples de Christ durent apprendre la dépendance totale par la foi en n'emmenant aucun argent, c'est justement parce que Dieu se servit d'autres personnes qui, elles, tout au long de leur voyage, ouvrirent leurs bourses pour les recevoir et les nourrir. Notons qu'habituellement, dans l'équipe de Jésus, il y avait quelqu'un qui tenait la bourse et que celle-ci s'ouvrait régulièrement pour donner aux nécessiteux, conformément à l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 19. Un traité est gratuit pour la bonne raison que quelqu'un, quelque part dans le monde, l'a payé. De même, une entrée est gratuite parce que quelqu'un ou une association l'a offerte. Donner l'évangile gratuitement implique justement de la générosité et un budget d'évangélisation de la part de celui qui offre, à l'instar de Dieu lui-même qui, dans un don suprême, nous a donné son Fils. Si le salut est gratuit pour nous, ce n'est pas qu'il n'ait rien coûté, mais c'est que Dieu a payé à notre place. Quel montant sommes-nous prêts à investir pour offrir gratuitement le salut aux autres? Un jour par mois de salaire? Ce sera un sacrifice pour celui qui gagne peu, comme pour celui qui gagne beaucoup. Mais quelle joie, le premier lundi du mois par exemple, de se dire « Aujourd'hui, je ne vais pas travailler pour moi-même, mais pour investir dans l'évangélisation du monde. » Avec ce principe, celui qui gagne 6000 francs en mettra 200 de côté, environ un trentième, alors qu'un autre en mettra 50 ou 500. C'est le principe qui compte. Ces chiffres ne sont qu'une illustration, mais dans la pratique, quelle différence! Sur les 32 idées d'évangélisation décrites dans mon livre « Progresser avec Dieu », presque toutes demandent un certain budget de départ, exception faite de quelques méthodes qui s'autofinancent ou laissent un bénéfice. Bien que vivant aujourd'hui par la foi, je jouis d'une grande liberté financière quant à l'évangélisation, que ce soit pour inviter quelqu'un au restaurant, à une course en montagne, pour le véhiculer, lui offrir un livre ou une cassette, ou pour toute autre dépense courante en vue de son salut ou de son affermissement en Christ. Cela ne veut bien sûr pas dire que je vais faire de la personne nouvellement convertie ou en voie de l'être une assistée, ni qu'elle ne participera jamais à certains frais. Mais cela veut dire que mes finances sont désormais au service de l'Évangile et non plus un obstacle à celui-ci. Jésus n'a-t-il pas parlé des richesses injustes de ce monde pour se faire des amis pour l'éternité, conformément à l'Évangile de Luc, chapitre 16, verset 9. Je vous encourage à commencer aujourd'hui même votre budget personnel d'évangélisation. 2. Finances sur le plan collectif. Chaque président, chaque membre de comité d'évangélisation, chaque directeur d'école de formation de disciples à GEM ou ailleurs, devrait comprendre que le but final d'une campagne d'évangélisation est la croissance de l'Église. Si les moyens d'y parvenir, comme l'orateur, la location, la publicité, etc., restent en liste dans nos priorités, le travail de suite n'en est pas moins la clé de voûte indispensable à l'accomplissement du projet. Cette notion comprise, le budget pourrait être décidé. Bien entendu, il serait insensé de penser que cet investissement assurera le succès à lui seul. Il n'est que le serviteur de l'action. Voici quelques questions à se poser. Combien de nouvelles personnes attendons-nous? De la décision à l'intégration dans l'Église, combien de temps, en moyenne, durera le travail de suite? De combien de conseillers aurons-nous besoin? Ceux-ci peuvent-ils et acceptent-ils vraiment de prendre une partie des frais à leur charge? Seront-ils consultés à ce sujet? Quels seront les frais par conseiller au niveau déplacement, téléphone, correspondance, repas ou autre activité commune, formation, divers? Allons-nous offrir un évangile, une cassette, un livre ou un cours biblique aux nouveaux convertis? La réponse à ces questions et à celles que vous ajouterez vous donnera une base pour calculer et décider du budget travail de suite. Il n'est pas question ici d'inciter les conseillers à revendiquer un salaire, mais bien de faire face ensemble aux besoins financiers inhérents à un travail de suite sérieux et complet. Troisième remède, un appel qui facilite le travail de suite. L'appel à la conversion doit être précis et départagé par rapport aux autres attentes de la foule. C'est à Cotonou, au Bénin, que nous avons expérimenté le bien fondé de mieux identifier les besoins des gens afin d'y répondre précisément. Au départ, les chrétiens avaient tendance à s'avancer pour divers besoins, se mélangeant avec ceux qui se donnaient à Christ pour la première fois. Le résultat? Les conseillers étaient submergés par une foule de gens qui handicapaient sérieusement leur travail. Nous avons alors rapidement organisé 5 types de ministères en complément du travail des conseillers. A. La prière pour les malades. Alors que l'appel à la conversion était achevé et que les conseillers, pour adultes et enfants, avaient commencé leurs entretiens dans un lieu à proximité, les malades, chrétiens ou non, désirant la prière, pouvaient s'avancer. Comme ils étaient nombreux, 16 groupes de 2 équipiers prenaient le temps de les recevoir un par un et de prier avec chacun d'eux devant l'estrade. B. La relation d'aide. D'autres équipiers et pasteurs, formés spécialement pour cette tâche, accueillaient sous une tente ceux qui avaient besoin d'un entretien plus profond, voire d'une délivrance. De tous les autres groupes, on pouvait leur envoyer des personnes ayant besoin de ce ministère. De ce fait, une délivrance ne s'improvisait plus au milieu des entretiens de conversion ou du lieu réservé à la prière pour les malades. C. La destruction d'objets occultes. Au fur et à mesure de l'avancement des soirées, plusieurs personnes amenaient des gris-gris et autres objets occultes ou impurs dont elles voulaient se débarrasser. Quelques responsables priaient, puis chantaient et se réjouissaient avec elles autour d'un feu de joie. D. Les groupes de discussion. Tous les autres équipiers et chrétiens engagés de la ville restaient dans la foule et formaient spontanément des groupes pour répondre aux questions, informer, témoigner, prier, orienter et servir tout un chacun. E. La formation des nouveaux convertis. Par la suite, nous avons réuni les nouveaux convertis des soirs précédents, adultes et enfants, pour qu'ils reçoivent des enseignements de base par les pasteurs locaux. Ce point est repris plus loin. Il arrive fréquemment qu'une personne bénéficie progressivement de plusieurs ministères au cours de la campagne. Le premier soir, elle écoute, puis elle observe comment les gens sont accueillis, traités, servis dans les divers groupes. Le deuxième soir, elle pose plusieurs questions, d'abord superficielles, puis plus profondes, et cela dans un groupe formé spontanément non loin d'elle. Le troisième soir, elle s'avance pour demander la prière pour sa santé. Le quatrième soir, elle se donne à Christ. Le cinquième soir et les soirs suivants, elle suit les cours pour nouveaux convertis. Le moment venu, elle apporte, le cas échéant, plusieurs objets occultes qu'elle brûlera. Elle bénéficie parfois d'un entretien de relation d'aide plus approfondi. Nous comprenons aisément que cette personne sera bien plus affermie ainsi, et nous saisissons mieux l'avantage des campagnes suffisamment longues. Lorsqu'une personne n'est pas au bon endroit, comme par exemple un chômeur désirant des conseils parmi le groupe des malades, ou une autre voulant se convertir dans l'attente de délivrance, les responsables la conduisent simplement où elle doit en fait aller, sans commencer à exercer le ministère. Si une personne, suite à un entretien dans la foule ou à la prière pour sa santé, désire se convertir, elle est amenée et présentée à un conseiller de son quartier. C'est ce dernier et personne d'autre qui présidera à cette alliance. Si ce principe n'est pas respecté, le travail de suite n'aura pas lieu. Ainsi, au lieu de tout mélanger, le corps se met à l'œuvre. Les yeux voient, les mains servent, les oreilles écoutent, et le fruit produit est bien meilleur. Le prédicateur ou président de soirée doit donc comprendre ces différents principes et veiller à ce que chacun soit correctement orienté. Son souci de voir un fruit qui demeure le protégera de provoquer un mouvement de masse confus. Si, comme déjà dit, tous sont appelés pour toutes les raisons à la fois, l'appel se terminera de manière anarchique avec, pour résultat, un travail de suite quasi impossible. Si, par contre, l'invitation est claire, la foule comprendra rapidement que c'est tout à son avantage de respecter les différentes consignes. Trop de réels mouvements de réveil s'éteignent, se ternissent ou ne portent pas le fruit escompté par le simple fait d'un mélange total des ministères. On voit devant le podium des gens qui pleurent, d'autres qui passent par une délivrance, d'autres encore qui, dans un brouhaha indescriptible, reçoivent des conseils pour leur foyer brisé, et ainsi de suite. C'est à celui qui criera le plus fort, sans oublier ceux qui, du podium, font passer des annonces, prophétisent ou chantent à tue-tête. Par contraste, je peux témoigner ici que la vue de quelques 300 groupes de personnes recevant simultanément un ministère adapté à leurs besoins dans une atmosphère paisible et imprégnée de la présence de Dieu est un spectacle saisissant. C'est ainsi qu'une armée de chrétiens peut être formée dans un séminaire et passer immédiatement à la pratique. Mon rêve est de voir un jour des milliers de chrétiens équipés pour ces ministères, découvrant que la mise en pratique est non seulement possible, mais voulue et bénie de Dieu, de vivre des campagnes d'évangélisation chargées de fruits abondants, tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité, de voir des multitudes entrer dans le royaume de Dieu, entourées avec amour par des conseillers consacrés et obéissants, d'entendre le témoignage de foules guéries, délivrées, soulagées, fortifiées. Je rêve de soirées où la gloire et la beauté de Dieu seront si tangibles que même les observateurs en seront saisis. Quatrième remède, un endroit accueillant pour les entretiens. Comme coordinateur de campagne, je recevais l'évangéliste Juan Carlos Ortiz chez moi pour un repas. Je lui demandais ce qu'il pensait de notre travail de suite. Heureusement, il eut le courage de me dire non ce qui me ferait plaisir d'entendre, mais la vérité. Il résuma la chose ainsi. « Vous avez loué la plus belle salle de la ville, établi un service d'accueil charmant, invité des chorales magnifiques et un bon prédicateur. Je fais l'appel, les gens s'avancent, puis je les convie à suivre les conseillers dans l'arrière-salle. Je suis allé voir moi-même cet endroit. On y accède par des escaliers étroits et grinçants. On passe une porte pour ensuite se retrouver dans des décors de théâtre. Le sol est poussiéreux, la lumière blafarde, certaines chaises sont rouillées et n'ont que 3 pieds. Il n'y a aucune intimité pour les entretiens. L'acoustique est mauvaise et vos conseillers font de véritables interrogatoires policiers. C'est la première impression du royaume de Dieu que vous donnez aux nouveaux convertis. Chez nous, en Argentine, nous ne faisons pas ainsi. » Son honnêteté m'a permis d'en apprendre plus sur le sujet en 5 minutes qu'en 5 ans. Je lui demandai alors comment il s'organise en Amérique du Sud. Voici sa réponse. « Nous nous sommes adressés aux femmes qui, dans notre Église, exercent le ministère de l'hospitalité. Nous leur avons confié le soin de préparer l'endroit où les entretiens de conversion devaient avoir lieu. Elles ont alors décoré de jolis posters muraux. Elles ont mis des sièges confortables autour de tables basses qu'elles sont garnies de fleurs. Elles ont disposé du thé, du café et des biscuits sur les tables et ont veillé à ce qu'une certaine intimité soit possible au moyen de paravents. Nos conseillers, quant à eux, ont préparé leurs coordonnées personnelles afin de se présenter aux nouvelles personnes. Ils ont commencé les entretiens en expliquant leur complète disponibilité à les servir. C'est en réponse à cela que les personnes accueillies ont, à leur tour, partagé leur adresse. Une agape, suite à la campagne, a réuni les pasteurs, les conseillers et tous les nouveaux convertis. Par ce moyen, ajouta-t-il, notre communauté s'est agrandie de 250 membres l'an dernier. Cela a-t-il vraiment si peu d'importance? Souvenons-nous comment le Père reçoit le Fils prodigue, et nous aurons une idée très biblique de l'accueil que Dieu donne en exemple. Luc, chapitre 15, versets 22 à 24 et 32. Même en faisant les choses plus simplement et à moindre frais, nous pouvons y mettre tout notre cœur. Le lieu d'accueil pour nouveaux convertis et conseillers, un endroit que nous pourrions appeler maternité, mérite toute notre attention. Il devrait être abrité des regards indiscrets, situé dans un endroit calme et propice au dialogue, suffisamment éclairé pour écrire, accueillant, confortable et chaleureux, de dimensions adéquates, et comporter une section enfant. Cinquième remède, répartition géographique du nouveau converti. Si la campagne couvre une ville d'une certaine importance ou toute une région, le travail de suite sera grandement facilité si le conseiller et le nouveau converti habitent à proximité l'un de l'autre. Comment donc, en quelques secondes, et dans un flot important de personnes répondant à l'appel, les faire se rencontrer? Une formule a porté ses fruits aussi bien en Afrique qu'en Europe. Elle consiste à mettre à l'intérieur de la maternité, et bien en évidence, les noms des différents quartiers de la ville ou du village alentour sur des panneaux espacés de quelques mètres. L'évangéliste, avant d'y envoyer le groupe, expliquera ouvertement et simplement les choses. Nous ne cherchons pas à attraper les gens, mais à mieux les servir par des personnes habitant leur quartier. Ces personnes quittent alors l'auditoire et se regroupent sous le panneau indiquant leur lieu de résidence. Les conseillers font de même. Ils se répartissent ensuite équitablement les personnes présentes dans chaque groupe et cherchent à conseiller de préférence une personne du même sexe ainsi que d'âge et de statut social correspondant. Cet instant est primordial puisque, à partir de là, se construira tout le travail de suite. Pour une foule plus grande, une présignalisation est nécessaire, comme par exemple zone ouest de la ville à gauche, zone est de la ville à droite. Quelques mètres plus loin apparaissent les noms des quartiers correspondants. Cette dernière idée doit s'appliquer aux enfants, avec une entrée particulière pour eux et leurs conseillers. Les quartiers proches du lieu de l'évangélisation seront souvent bien plus représentés. Cette donnée connue, il faudra augmenter les panneaux et les conseillers de l'endroit pour aboutir à des groupes équilibrés. Au besoin, on rectifiera pour le jour suivant. Il est bien entendu plus facile de tenir compte de ce phénomène avant la campagne. Si un conseiller n'a personne à suivre de son propre quartier, il travaillera dans le quartier le plus proche. Résumons les avantages de cette méthode. 1. Facile et économique. Elle ne nécessite que quelques supports et panneaux et économise par la suite des heures de trajet et de gros frais de déplacement que les conseillers ou les églises ne peuvent pas toujours assumer. B. Amitié et sécurité renforcée. Tout en rentrant chez lui, le conseiller pourra accompagner le soir même ses nouveaux disciples jusqu'à leur domicile. Il les retrouvera ainsi bien plus facilement. C. Gain de temps pour les visites à domicile dans les deux sens. Le conseiller et le nouveau converti pourront par la suite se retrouver plus vite, plus facilement et plus souvent, aussi bien pour des rencontres communes chez le conseiller que pour les visites individuelles qu'effectuera ce dernier. D. Rassemblement pour les cultes et autres rencontres grandement facilitées. Le conseiller pourra aisément passer chez chacune de ses brebis pour les emmener au culte. Ce lieu sera parfois éloigné, mais l'important est que le trajet se fasse en commun, Ce point est développé plus loin. Et plus de justice et de clarté de la répartition des tâches. Les disputes au sujet de l'Église que fréquentera le nouveau converti n'auront pas lieu, de la mesure où chaque conseiller a la liberté et la responsabilité, sans faire pression bien sûr, d'emmener celui-ci dans sa propre Église. F. Fruits et multiplication. Les fruits qui demeurent seront plus nombreux et de ce fait, les campagnes d'évangélisation se multiplieront. On peut aussi imaginer que les conseillers, de commun accord, rejoignent le quartier, panneau, correspondant à leur église, afin que les nouveaux convertis n'aient pas à traverser la ville pour se rendre au culte. Leur répartition entre dénominations se fera alors non seulement par rapport aux conseillers, mais aussi géographiquement. Exemple. Un conseiller habite le quartier A, mais fait partie d'une église baptiste du quartier E. Lors de la campagne, il conseillera dans ce cas des gens du quartier E. Ceux-ci s'intégreront alors dans une église qui est géographiquement proche de chez eux. Il y aura cependant plus de frais de déplacement pour le conseiller quant à ses visites. L'important est de faire le bon choix avant la campagne et de s'y tenir. Si la chose n'est pas définie et respectée, certains conseillers essayeront de suivre à la fois des gens de leur propre quartier et de ceux proches de leur église. Ils créeront ainsi des tensions inutiles entre dénominations. Cette dernière solution n'est bénéfique que dans une région où les lieux de culte sont nombreux et bien répartis. Elle demeure, à mon avis, moins avantageuse et moins pratique que la première. Sixième remède. Couper le volume sonore. Si une sonorisation bien réglée est une excellente servante, elle peut devenir une terrible ennemie au moment où tous les ministères commencent à s'exercer. Certains orateurs, malheureusement, usent et abusent du micro jusqu'à la dernière seconde de la rencontre. J'ai vu des conseillers hurlant dans l'oreille de ceux qui avaient levé la main comme signe de leur décision pour Christ et agitant en tous sens des cartes de décision quasi impossibles à remplir à cause du décibel ininterrompu arrosant le public. La foule se dispersait ensuite telle une nuée de moineaux, ne laissant aucune possibilité de contact personnel. Bien que l'Évangile ait été annoncé avec puissance, un an plus tard, les églises ne comptaient pas plus de 2 nouveaux membres pour 1000 cartes de décision répertoriées. Comment s'organiser concrètement? Voici 3 méthodes à choix, appliqué avec succès à plusieurs endroits. A. Les annonces et toutes les communications nécessaires sont faites avant la prédication. L'évangéliste, à la fin de son message, oriente les gens vers les différents ministères et la rencontre officielle se termine ainsi. La sonorisation coupée, les uns retournent chez eux, les autres restent pour bénéficier des ministères. B. Une fois l'orientation donnée, le président de séance fait une conclusion officielle, mais celui-ci, conscient que tous les entretiens ont commencé, se limite drastiquement. Après 1 ou 2 minutes au maximum, la sonorisation cesse de fonctionner. C. Dans le cas où le contexte local exigerait une conclusion plus formelle, le public sera informé que, suite à l'appel, 15 ou 20 minutes seront accordées pour les divers types d'entretiens. Pour la foule, il y aura donc soit un entr'acte, soit l'occasion de poser des questions en petits groupes. Pendant ce temps, les ministères seront en fonction, et comme toujours, la sonorisation sera coupée. Cette méthode que j'ai souvent pratiquée permet à la fois de ne pas trop bousculer les traditions, tout en donnant l'occasion, après la pause, d'interviewer les personnes guéries ou nées de nouveau. Ces dernières, souvent connues du public, et ayant bénéficié du toucher de Dieu, sont un puissant encouragement pour tous. Parfois le témoignage relate un fait vécu sur le champ, parfois celui advenu un soir précédent. Il arrive que ce moment officiel de témoignage et de conclusion soit suivi d'une louange spontanée. L'animation est alors forte, mais le travail de centaines de groupes s'est déroulé dans de bonnes conditions pour tous. À Lomé, sur une place qui avait vu les affrontements meurtriers les mois précédents, nous avons vu près de 2000 chrétiens pleins de joie danser devant Dieu. Avec plusieurs responsables, nous avons ressenti que l'atmosphère spirituelle se métamorphosait. Là où la mort avait régné, l'esprit de vie prenait place. Si nous désirons des témoignages, des rencontres précédentes, tout en choisissant les options A ou B, il faudra les insérer avant le message. Soulignons que cette discipline, à propos du volume sonore, est à la fois nouvelle pour beaucoup et difficile à tenir. Elle demandera du courage pour la communiquer et de la fermeté face à ceux qui veulent reprendre le micro pour les bibles et stylos perdus, les phares de voitures oubliés et les annonces de dernière minute. Il y a aussi les chorales frustrées, le jeune batteur qui aimerait prouver ses talents, la cassette que le technicien trouve géniale, etc. Croyez-moi, il n'est pas facile de faire comprendre à tous que l'essentiel ne se passe plus au micro à ce moment-là et qu'une simple annonce peut freiner l'action du Saint-Esprit. Quelquefois, on objecte que la musique dans l'Ancien Testament accompagnait les prophéties et qu'un fond musical permet une intimité pour les entretiens. Mais aucune personne reçue pour un entretien n'est forcée de dire des choses trop personnelles. De plus, c'est aux organisateurs de prévoir la possibilité géographique d'entretiens confidentiels. Concernant le fond musical, fort heureusement pour eux et pour la parole de Dieu, les prophètes avaient une harpe et non des coups de tonnerre, du sifflement aigu ou une chorale amplifiée. Quel passage biblique nous montre les disciples chantant à tue-tête dans les oreilles de Jésus pendant qu'il prie pour les gens? Aujourd'hui encore, et jusqu'à preuve du contraire, c'est Jésus et non les décibels qui sauve, restaure et guérit. La valeur qu'on donne aux entretiens est donc aussi révélée par l'atmosphère qui les entoure. Septième remède, ne pas changer de berger, ne pas jouer avec les cartes de décision. Il faut dénoncer ici une pratique aussi répandue que désastreuse, celle qui consiste à déposer une pile de cartes de décision sur le bureau d'un pasteur, à la fin d'un effort d'évangélisation, dans l'espoir que celui-ci assure le suivi. Cette habitude est la cause d'une véritable hécatombe spirituelle. Les raisons en sont simples et dramatiques. A. Jésus nous avertit que la brebis fuira devant un étranger. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 5. C'est exactement ce qui se passe quand le nouveau converti est contacté par un inconnu. Même si ce dernier est pasteur, ancien ou diacre, cela ne change rien. Les rejets à la porte ou au téléphone seront fréquents, et plus encore si c'est un membre de la famille qui répond et non l'intéressé lui-même. Le nouveau converti n'est pas prêt à se confier à qui que ce soit d'autre qu'à son premier contact. B. Les conseillers se déresponsabilisent et se volatilisent puisqu'un professionnel a soi-disant pris les choses en main. Pourtant, il savait mieux que quiconque où en étaient spirituellement les personnes concernées. C. Certaines adresses seront incomplètes, d'autres illisibles ou même fictives. Quand le travail du conseiller s'achève à l'entretien initial et qu'il n'en assume pas les conséquences, les dérapages vers la superficialité se produisent plus facilement. Si par contre le conseiller sait que c'est à lui de retrouver la personne, il sera généralement plus consciencieux et pratique pour noter l'adresse et prendre rendez-vous. D. Le pasteur en question travaille déjà souvent à 120 ou 150%. Il se sentira alors coupable et malheureusement incapable d'assumer toutes ses visites. Répétons-le. La seule personne de confiance pour la brebis est celle qu'elle connaît, c'est-à-dire celle qui l'a amenée à Christ. C'est pourquoi les conseillers doivent s'engager non seulement pour un entretien initial, mais également pour plusieurs mois. Quand le nouveau converti prend confiance, qu'il fréquente le culte de sa propre initiative, qu'il connaît le pasteur et se fait d'autres amis, alors, et alors seulement, le conseiller pourra prendre du recul. Huitième remède. Le conseiller ira chercher le nouveau converti à domicile pour le culte. Le conseiller ira chercher à domicile sa ou ses brebis les premiers dimanches pour se rendre au culte. Si elles sont nombreuses, il peut leur donner rendez-vous à un point central du quartier, 100 ou 200 mètres du domicile. Si l'une manque, il ira la chercher personnellement et confiera le groupe à un membre qui le seconde, où il reviendra plus tard s'entretenir avec la brebis manquante. Jésus ne pouvait pas être plus clair dans son enseignement. Un bon berger doit compter ses brebis. Le diable dit que c'est orgueilleux. Et chercher celle qui s'égare jusqu'à ce qu'il la trouve, conformément à l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Le diable dit qu'il faut la laisser tranquille, qu'elle est en réflexion. On ne peut à la fois obéir au serpent et au Seigneur. L'un veut perdre et l'autre sauver. Vous, que ferez-vous? Quel que soit le type d'évangélisation choisi, les nouveaux convertis auront peur d'entrer pour la première fois dans votre lieu de culte, groupe de jeunes, groupe de maison, etc. Pourquoi? Ils ne savent pas comment s'habiller selon vos coutumes. Ils ne savent pas où aller s'asseoir. Ils ne connaissent pas vos cantiques. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas chercher un passage dans la Bible. Ils ne savent pas ce qu'on pourrait bien leur demander. Ils ne savent finalement peut-être pas vraiment le chemin pour s'y rendre. Ils ont donc terriblement peur du ridicule, du rejet et du jugement des autres. Ils ont un nœud à l'estomac face à toutes ces barrières psychologiques à surmonter. La plupart renoncent purement et simplement, malgré un désir bien réel de se joindre à vous. Réfléchissez un instant. Êtes-vous entré dans un lieu de culte pour la première fois sans être accompagné? Si oui, vous êtes une exception, et je vous en félicite. Mais la majorité des lecteurs se souviendront d'avoir été accompagnés par des amis ou des parents. Voici comment cela s'est passé pour moi. J'avais 15 ans. Mes voisins passaient par un réveil spirituel et m'en parlaient en termes parfois incompréhensibles, mais avec un enthousiasme et une conviction qui me donnaient envie d'aller voir cela de plus près. Cependant, jamais je n'aurais osé m'y risquer de ma propre initiative, et eux ne pensaient pas à m'inviter à ces rencontres. Un jour, le fils de 18 mois, mon aîné, m'y entraîna. Nous sommes donc arrivés à l'entrée d'une longue salle comble, où je tentai de passer inaperçu en me cachant derrière son épaule. Celui-ci, ne trouvant pas de place, se dirigea vers l'avant. Mon estomac se nouait un peu plus à chaque pas, jusqu'au tout premier rang. À gauche se trouvaient 15 ou 20 centimètres de banc encore libre. Il s'y assit, me laissant debout au milieu du couloir central. En mon fort intérieur, c'était maintenant la panique. Pas de moquette pour ramper par-dessous et filer comme dans certains films. Si je ne trouvais pas de solution dans les 3 secondes, je serais foudroyé par les 120 regards qui semblaient me brûler le dos. Je me pliai, donnai un bon coup de hanche à mon guide et m'assis à ses côtés, en équilibre, sur quelques centimètres de banc. J'y restai pendant les quelques 2 heures que dura le culte. Je suis aujourd'hui très reconnaissant d'avoir vécu cette aventure, car elle m'aide à comprendre le formidable obstacle que doit franchir un étranger pour oser franchir la porte de nos églises et autres lieux de rencontre. Voici encore 2 expériences personnelles. Les noms sont changés. Madame Mundou, béninoise, achève ses études universitaires. Elle est très touchée par le message de salut auquel elle répond publiquement. L'entretien que j'ai avec elle est amical et profond. À la sortie, nous retrouvons plusieurs pasteurs. Il est décidé que j'irai, avec l'un d'eux, la chercher pour le culte du lendemain matin. Madame Mundou est plus que désireuse de venir, mais ne voulant pas nous importuner, nous assure qu'elle connaît l'adresse et qu'elle sera des nôtres. J'accepte sans conviction cette manière de faire. C'est une erreur, car elle ne viendra pas. Et pourtant, cette femme distinguée le désirait sincèrement. Elle l'avait de plus affirmé librement et sérieusement devant plusieurs pasteurs et celui qui l'avait amené à Christ. 12 heures seulement nous séparaient de ce rendez-vous. Nous avions communiqué ouvertement, sans manipulation aucune, et elle connaissait le chemin. Mais un principe biblique avait été violé, à savoir que c'est au berger de conduire la brebis. Alex a 38 ans. Il habite le canton du Jura en Suisse. Nous nous connaissons bien, ayant appris ensemble le même métier. Je prie fréquemment pour lui. Les circonstances nous rapprochent quelquefois autour d'une tasse de café. Son intérêt pour une communion personnelle avec Christ grandit gentiment. Mon épouse lui fournit les livres qui correspondent à ses préoccupations. Il demande bientôt conseil pour aborder la lecture de la Bible. Nous l'abonnons alors au lecteur qu'il apprécie au point de demander bientôt l'appui correspondant pour ses propres enfants. Quand j'entends un message approprié, je le lui envoie sur cassette. Un dimanche, c'est décidé, nous irons ensemble au culte. Alex, calmant mes appréhensions, apprécie d'emblée les chants, le message et l'atmosphère chaleureuse. Pendant un an, je l'y emmène à son rythme et quand je suis dans la région, soit une dizaine de fois. Un jour, j'apprends qu'il est, par lui-même, assidu aussi bien au culte qu'aux rencontres de prière. Aujourd'hui, il est passé par les eaux du baptême, fait partie de la chorale et témoigne courageusement de sa foi. Signalons au passage que la plupart des églises grandiraient en nombre durant toute l'année si chacun allait chercher à son domicile les personnes invitées. On parle de ce principe, on en plaisante, on en rêve, mais on ne le fait pas. Que se passerait-il si nous cessions d'être religieux et devenions pratiques et vrais? Le voulez-vous? Alors, emmenez une personne, enfant ou adulte, au culte dimanche prochain et accompagnez-la avec amour. Une communauté en Suisse romande, pour citer un endroit où on ne se bouscule pas le dimanche matin pour aller à l'église, a accueilli quelque 500 visiteurs en une seule année. Parmi eux, des dizaines se sont convertis et en sont devenus membres. Certes, la qualité du culte est primordiale, mais la mentalité des membres face à ce principe l'est tout autant. J'ai vu des conseillers qui, tout au long de la semaine, m'ont affirmé être décidés à mettre ce remède en pratique pour finalement désobéir le moment venu. J'ai vu des responsables de mission approuver cet enseignement pour finalement interdire à leurs propres équipiers de se déplacer en ville le dimanche matin pour cause d'insécurité. Mais j'ai aussi vu à de nombreuses reprises des lieux de culte parsemés de conseillers avec, à leur côté, un ou plusieurs nouveaux disciples. Au fur et à mesure des souhaits de bienvenue donnés par le pasteur, on pouvait ressentir un courant de vie semblant électriser l'auditoire. Nous pouvions presque lire sur les visages de tous une expression d'incrédulité et de bonheur. C'est donc possible? Des gens peuvent répondre à un appel et se retrouver le dimanche suivant dans notre communauté. Nous aurions pu supprimer la prédication, car un puissant message d'espérance et de victoire avait déjà pris place dans les cœurs. Conseils et réflexions. La plupart des personnes en train de se convertir accepteront votre proposition de les accompagner au culte pour autant que vous alliez les chercher à domicile. Si elles refusent, respectez leur choix, mais ne les abandonnez pas. Servez-les dans les autres domaines possibles. Ces personnes doivent comprendre que vous êtes sérieux et que vous attendez, en cas d'accord, à ce qu'elles respectent leur engagement. Faites-leur comprendre que vous vous investissez avec celles qui en veulent. Ce défi les motivera. Cela vous coûtera du temps, parfois de l'argent. Votre attitude aimable mais ferme vous permettra d'éviter des rendez-vous factices et autres attentes stériles. N'abandonnez jamais vos invités à l'entrée du lieu de culte pour saluer à la ronde. À la rigueur, vous pouvez les honorer en leur présentant quelques personnes. Mais souvenez-vous que vos hôtes préféreraient pour la plupart rester plus que discrets au premier contact. N'allez pas vous asseoir trop en avant et surtout ne parquez pas toutes les nouvelles brebis dans un carré délimité comme certaines congrégations le font. Restez à côté d'eux. Ne les couvez pas toutes les 2 minutes avec vos commentaires, mais priez pour elles. S'il y a lieu, mettez-les à l'aise en leur expliquant tel aspect de la rencontre. Durant et après une campagne, les dirigeants et pasteurs doivent éviter de leur donner des directives pesantes. Je veux que vous restiez après le culte. Vous devez venir mardi soir pour le cours qui vous est destiné, etc. C'est dans le ton de la voix et dans la manière de dire les choses qu'ils se sentiront aimés et servis, ou au contraire, utilisés et manipulés. Accueillir de nouveaux fidèles devrait se fêter. Nous avons vécu des moments mémorables quand, au milieu du culte, tous les membres de l'Église ont défilé, parfois en chantant ou dansant, serrant les mains de tous les nouveaux convertis. Parfois, ce sont les conseillers qui, à tour de rôle, là où ils étaient assis, ont présenté leurs nouveaux amis. D'autres communautés préféreront offrir des rafraîchissements, un repas, une excursion, etc. Quelle que soit la forme de présentation, elle doit se faire dans des termes qui les mettent à l'aise et les honorent, et non dans un patois évangélique qui tutoie et appelle de noms étranges des personnes qui se demandent si elles ont atterri sur la bonne planète. Une personne qui n'est pas encore convertie aura souvent un appétit spirituel grandissant. Il faudra l'accompagner à son rythme et non la gaver. Cela peut signifier pour un sympathisant un culte par trimestre, pour un autre moins, pour certains plus. Les cultes, pendant et après la campagne, doivent refléter une famille joyeuse et disponible. Les messages seront simples, mais nourrissants. Neuvième remède, les visites à domicile. Le conseiller visitera le nouveau converti à domicile dans les 48 heures qui suivent sa décision. Il donnera des études bibliques simples, informera sur les émissions chrétiennes et, le cas échéant, sur d'autres cours bibliques, cassettes et livres à disposition. C'est là que se joue la grande bataille spirituelle et que l'Église perd ou gagne une grande partie de ses membres potentiels. Un nouveau-né a immédiatement besoin de ses parents, même s'il ne le sait pas. Cela signifie que ses premières visites auront lieu pendant la campagne. Nous touchons ici au message central de ce chapitre. Je voudrais que cela soit bien compris, et j'insiste. Un conseiller qui n'est pas totalement engagé à faire ses visites ne devrait pas être enrôlé dans cette fonction. Les adresses doivent donc être, certes, prises avec tact, mais aussi avec une rigueur militaire. En Afrique, beaucoup de rues n'ont pas de nom ni de numéro. De ce fait, les nouveaux convertis donnent leur boîte postale, ce qui est parfaitement inutile pour leur rendre visite. Dans ces conditions, le conseiller devra donc situer les lieux de résidence par rapport à des carrefours, bâtiments connus, stations d'essence, etc. Dans ces visites, l'étude de la Bible, la prière, le dialogue sont importants, mais l'amitié, l'honnêteté et le bon sens le sont aussi. Plus le conseiller s'oubliera lui-même pour aimer et servir, plus il sera libre et apprécié. Mais s'il cherche à impressionner, à tenir un rôle ou à se faire passer pour un ange, il risque d'échouer. Là où la persécution familiale est fréquente, une plus grande prudence est nécessaire. Les situations varient beaucoup d'un cas à l'autre dans la même ville, si bien que chaque conseiller devra s'adapter et organiser parfois des rencontres ailleurs ou chez lui. Devant ce défi, soulignons encore une fois l'avantage de conseiller quelqu'un de son propre quartier ou village et du même sexe. Dixième remède. Les pasteurs locaux forment les nouveaux convertis durant la campagne. Les brebis s'attachent ainsi non pas à l'évangéliste de passage, mais se familiarisent avec les bergers locaux. Ce remède n'enlève rien au travail du conseiller, mais le renforce et le complète. À Cotonou, cet enseignement avait lieu chaque après-midi de 17 à 18 heures. D'environ 25 le deuxième jour, les participants atteignirent plus de 300 le 12e et dernier jour. Certains ne vinrent qu'une fois, d'autres quotidiennement, ces variations découlant de la date de leur conversion et de leur disponibilité. En tout, sur 1600 cartes de décision remplies parmi les adultes, plus de 1000 personnes participèrent. Cette proportion était de 500 sur 1000 deux ans auparavant. Fait intéressant. Le directeur de cette dernière campagne s'était converti de l'islam plusieurs années auparavant dans un effort similaire. Il avait alors suivi chaque après-midi les cours pour nouveaux convertis. S'étant ensuite formé dans plusieurs écoles à Djem, puis à l'école biblique Ibeto en Suisse, il est aujourd'hui responsable de Djem au Burkina Faso et la cheville ouvrière de plusieurs grandes campagnes d'évangélisation. Cette formation peut aussi se donner après l'appel, en parallèle aux autres ministères. Cette manière de procéder est plus facile puisque tout le monde est déjà réuni, mais le temps disponible est plus court. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'un nouveau chrétien sera plus fort après avoir assisté à ses cours et à plusieurs soirées d'évangélisation qu'après un entretien unique et sans suite. Nous avons établi le même principe à Marseille. Pendant que l'évangélisation se poursuivait, les nouveaux convertis, accompagnés de ceux qui les avaient amenés à Christ, se retrouvaient quotidiennement à quelques pas de la célèbre avenue de la Canebière pour une heure d'enseignement prodiguée par les dirigeants locaux. Pour les responsables de Djem, cette pratique nouvelle demandait une souplesse particulière. Dès qu'un équipier était l'instrument d'une conversion, sa priorité n'était plus le mime, le chant, ou même des responsabilités pratiques, mais bien le salut éternel du nouveau-né. En d'autres termes, les moyens tels que l'animation, la prédication, les instruments musicaux, les horaires, les repas, l'organisation, cédaient la priorité au but, c'est-à-dire le salut du plus grand nombre. Ce rendez-vous quotidien, où l'équipier conduisait sa brebis, primait surtout le reste. Une vingtaine de nouvelles personnes en bénéficièrent. Serez-vous étonné si je vous dis que cela est une petite révolution par laquelle bien peu de chrétiens ont passé? J'ai vu trop souvent l'organisation, les horaires, les fonctions, le programme, les finances avoir dans les faits la priorité sur les gens pour lesquels nous étions théoriquement là et pour lesquels Christ est mort. Pour réussir, cette formation doit être confiée à une personne convaincue, persévérante et dynamique. En effet, s'assurer chaque jour de la présence d'un orateur local, d'une formation variée et cohérente et d'une communication soutenue avec les chrétiens engagés dans l'effort demande un haut niveau d'engagement. Le fruit en est exactement proportionnel. Onzième remède. Que personne ne baisse les bras. Si toute la mentalité du corps a été nourrie de la vision du travail de suite, l'Église tout entière restera, avec conviction, mobilisée. L'intercession ne faiblit pas. Comme dans tout groupe vivant, la phase de départ est délicate. Un chêne dans la serre d'un pépiniériste ressemble, au début, à un brin d'herbe. Si l'Église est consciente que des chênes et des cèdres lui ont été confiés, elle les couvrira avec grand soin d'une prière constante. Les visites se poursuivent. Le nouveau converti continue d'être accompagné par le conseiller, que ce soit dans un groupe de prière, un groupe de jeunes, au culte et dans la vie de la communauté d'accueil. L'Église tout entière se mobilise pour intégrer les nouveaux, repas, loisirs, soutien social, etc. Le chef conseille, supervise la bonne marche des choses, encourage, renseigne le comité directeur, règle les conflits possibles. Il peut aussi prévoir des rencontres, décentralisées ou non, pour les nouveaux convertis. Une agape de reconnaissance et d'accueil, réunissant pasteurs, conseillers et nouveaux convertis, peut se faire. Les nouveaux sont initiés à un style de vie d'évangélisation. Quelle joie pour moi de voir parmi les conseillers les plus zélés quelqu'un venu à Christ deux ans auparavant. Réflexion générale. Cet écrit n'est pas une étude finale, mais initiale du travail de suite. Si vous avez une expérience vécue à ce sujet, écrivez-moi. Elle pourrait venir enrichir une prochaine édition et, par là, aider un grand nombre de personnes ayant le même fardeau. En tant qu'évangéliste, je suis personnellement disponible pour travailler aux côtés de chrétiens décidés à porter un fruit qui demeure. Prions et agissons pour qu'une nouvelle mentalité inspire notre évangélisation alors que la moisson est récoltée. La croissance de l'Église en dépend largement. Résumé du chapitre 2. 11 remèdes pour que les nouveaux convertis soient ajoutés à l'Église. 1. Former des conseillers avant la campagne d'évangélisation. 2. Créer un budget pour le travail de suite. 3. Énoncer un appel précis afin que les candidats au salut soient mis à part et conseillés. 4. Préparer un lieu d'accueil adéquat, illuminé, intime, calme, confortable. 5. Orienter les personnes par quartier et région au moyen de panneaux. 6. Couper la sonorisation après l'appel, afin de ne pas entraver les ministères personnalisés. 7. Ne pas changer de berger. Ne pas jouer avec les cartes de décision. Les brebis fuient devant un étranger. C'est le conseiller et non le pasteur qui offre son amitié. Repas, détente, travail. Les dénominations participantes savent à l'avance que chaque conseiller emmènera en priorité son disciple dans sa propre dénomination. 8. Le conseiller cherchera le nouveau converti à son domicile pour le culte. 9. Le conseiller visitera le nouveau converti à son domicile dans les 48 heures suivant sa décision. Il donnera des études bibliques simples, informera sur les émissions chrétiennes et, le cas échéant, sur d'autres cours bibliques, cassettes et livres à disposition. 10. Les nouveaux convertis seront formés sur le lieu de la campagne par les responsables locaux. 11. Tout le peuple de Dieu comprend que la fin de la campagne est le début du travail essentiel. Les bébés sont là et demandent intercession, visite, finances, énergie de toute la famille. Quel changement vais-je opérer dans mon budget face à l'évangélisation personnelle et au travail de suite? Quelle est la personne que je pourrais aller chercher à domicile dimanche prochain pour l'emmener au culte avec moi? Quel est mon engagement personnel devant Dieu face au travail de suite? Quels sont les changements qui me paraissent essentiels pour la prochaine campagne d'évangélisation dans ma région? Sur le plan des conseillers? Sur le plan de mon église? Sur le plan de ma localité?